Amis, frères et sœurs, avant même que nous fassions quoi que ce soit, avant même que nous demandions quelque chose, avant même que nous reconnaissions nos torts, Dieu nous dit « Je vous donne ma paix. Je vous fais grâce pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous pourriez me dire, tout ce que vous pourriez me demander. Je suis le Dieu qui aime son humanité, sa création. Autrement dit, chacun, chacune d'entre nous. Bienvenue à l'oratoire du Louvre pour ce culte qui nous rassemble ce matin. Bienvenue à celles et ceux qui peut-être franchissent le seuil de ce temple pour la première fois. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet ou des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Bienvenue à David Cassan qui nous accompagne à l'orgue ce matin. Alors que le monde reste troublé, alors qu'il nous plonge dans de nombreuses incertitudes, puissions-nous vivre l'esprit au repos et le cœur apaisé, ce culte qui nous rassemble. Prions ensemble. Éternel, tu es là au milieu de nous et c'est toi qui nous offres ce temps de culte pour accueillir une parole qui féconde notre existence. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour partager avec des frères et des sœurs notre adoration et notre prière. Amen et merci. Nous ouvrirons ce culte en prenant le premier répond que vous trouverez au début des psautiers français, dans la liturgie du temps de la Passion. Et ce répond s'intitule « Seigneur, que tous unissent pour chanter ton amour ». Je vous invite à vous lever. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Mon âme bénis l'Éternel. Amis, frères et sœurs, je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 24, donc dans le psautier français. De ce psaume, nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 5. Prenez place. Écoutons maintenant comment Dieu révèle sa volonté, son amour aux hommes. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Prions ensemble. Nous écouterons un texte du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Seigneur, les hommes vont à toi dans leur misère et demandent du secours, du bonheur et du pain. Tous font ainsi, païens et chrétiens. Seigneur, les hommes vont à toi dans ta faiblesse. Ils te trouvent pauvre et méprisé, méconnu et trahi, et c'est ainsi que tu vas vers leur détresse. Seigneur, prends-moi par la main, que je puisse moi aussi aller comme toi, avec toi, vers mes frères. Amen. Accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Voici la promesse que l'Éternel fait à son peuple par la bouche du prophète Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. Chantons à Dieu notre reconnaissance.
Jamais ne se lasse.
nous restons debout pour confesser notre foi avec un texte de ma consœur Béatrice Cléromazir. Éternel, nous croyons que tu fais toutes choses nouvelles pour le monde et pour nous, toujours et en tout temps. Toi, le Dieu de la résurrection, de la vie nouvelle et de l'homme relevé. Nous croyons que personne n'est enfermé dans la fatalité du malheur, mais que tu nous offres dans la foi l'horizon d'un bonheur et la création toujours possible. Nous croyons, grâce à l'humanité de Jésus, que l'homme est ton espérance et que ton amour pour lui est le même amour que tu as pour nous. Nous croyons qu'il est possible de nous laisser convertir à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain, et qu'ainsi, le règne de Dieu peut advenir dans notre monde chaque jour par nos actes et nos pensées. Nous croyons qu'une fraternité de foi existe avec tous ceux qui se soucient de ce monde et ceux qui le peuplent, et qu'ensemble, quelle que soit notre tradition de foi, nous pouvons rendre manifestes toutes les choses nouvelles que tu crées pour nous. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Et nous lirons maintenant un extrait de l'évangile de Luc, au chapitre 3, les versets 7 à 14. Jean-Baptiste disait alors aux foules qui venaient se faire baptiser par lui : Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient ? Produisez donc des fruits qui témoignent de votre conversion. Et n'allez pas dire en vous-même : Nous avons pour père Abraham. Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Les foules demandaient à Jean : Que nous faut-il donc faire ? Il leur répondait : Si quelqu'un a deux tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des collecteurs d'impôts aussi vinrent se faire baptiser et lui dirent : Maître, que nous faut-il faire ? Il leur dit : N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. Des militaires lui demandaient : Et nous, que nous faut-il faire ? Il leur dit : Ne faites ni violence, ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. Je vous invite à prendre le cantique numéro 193 dans le recueil Louanges et prières, Cantique 193, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions ensemble. Éternel, ta promesse de faire toutes choses nouvelles nous rejoint ici et maintenant. Et si ces choses nouvelles commençaient en écoutant ta parole ? Nous venons à toi tels que nous sommes. Certains d'entre nous sont bien présents, d'autres plus distraits. Certains sont enracinés dans ta parole, d'autres sont plutôt déconcertés par elle. Alors envoie sur chacun et chacune de nous ton esprit de vie, qu'il puisse unir nos diversités, nos particularités, qu'il renouvelle notre compréhension à la fois de nos vies, de nos relations. Que ta parole conduise chacune et chacun à la conversion de notre cœur. Autrement dit, à ton amour et à celui de notre prochain. Amen. Amis, frères et sœurs, je vous propose de retrouver ce matin un extrait donc de l'évangile de Luc qui met en scène un homme, Jean, dit le Baptiste ou le baptiseur. Cet homme est fils de Zacharie, enfanté dans la vieillesse d'Élisabeth, sa mère, et dont la naissance nous est racontée dans le premier chapitre de l'Évangile de Luc. On le retrouve dans un rôle qui est familier aux lecteurs de la Bible, séjournant dans le désert. Jean le Baptiste remplit son rôle de prophète, que Luc l'évangéliste résume de cette manière au tout début du chapitre 3. Il vint dans la région du Jourdain, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. En fait, le passage que nous venons d'entendre se situe dans la vallée du Jourdain, où la densité de population est plus importante que dans le désert. Jean le baptiseur, ou Jean Baptiste, est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, et on peut le reconnaître à son discours empreint de sévérité, dans le style des anciens prophètes. L'existence qu'il mène est celle d'un ascète, ses préceptes sont exigeants, son langage est rude, voire radical. Et les quatre évangiles parlent de Jean-Baptiste de façon complémentaire. Il est décrit comme un solitaire ascétique dans l'évangile de Matthieu, où il se nourrit de sauterelles grillées, de miel sauvage, et il pratique le jeûne. Ça, c'est dans l'évangile de Marc. Et en fait, il développe son activité sur les rives du Jourdain. Il pourrait avoir appartenu au mouvement essénien, selon l'historiographe romain de confession juive, Flavius Joseph, qui évoque Jean dans son œuvre. Homme de haute qualité, il exhortait les Juifs à pratiquer vertu, justice et piété. Il les conviait à se rallier par un baptême après s'être rendu agréable à Dieu, non seulement en se détournant du péché, mais en joignant la pureté du corps à celle de l'âme. Les quatre évangiles s'accordent à voir en lui l'homme envoyé de Dieu pour témoigner au sujet de la lumière. Ça, c'est dans l'évangile de Jean. Il est aussi le messager qui ouvre la route annoncée par Malachie et dont Élie est une figure. Il est encore la voix d'un oracle, la voix de celui qui crie dans le désert, l'oracle d'Ésaïe. Préparez le chemin du Seigneur, là encore, dans l'évangile de Matthieu. Mais c'est seulement l'évangéliste Luc qui fait un lien étroit entre Jean le Baptiste et Jésus le Christ en racontant les récits d'enfance en parallèle. Dans le désert, Jean Baptiste enseigne la prière, les jeûnes de pénitence. Il prêche le repentir, la confession des fautes et il propose un baptême pour les péchés remis, qui symbolise et même consacre cette purification morale acquise par une vraie conversion du cœur, indispensable pour s'approcher de Dieu. Il annonce aussi à ceux qui l'écoutent la venue d'un plus puissant que lui, déjà présent au milieu d'eux, qui ne baptisera plus comme lui, dans l'eau seulement, mais dans l'Esprit Saint. Lui, Jean, sait que celui-là est le Messie, le Christ, et il est seulement devant lui pour prévenir son arrivée. Il est le prophète, intermédiaire entre les deux alliances. Jean-Baptiste proclame un appel à la conversion. Pour lui, la vérité de Dieu est à chercher d'abord dans le désert, ainsi que l'écrit Daniel Marguerat, la vérité de Dieu est à chercher dans le désert, dans la privation et non dans le luxe des villes royales. Le choix du désert est d'une symbolique forte. Dans la tradition biblique, le désert est le lieu du retrait et de la communion idéale avec Dieu durant l'Exode. Pour retrouver le Dieu des Pères, il s'agit de se retirer. Fin de citation. Jean-Baptiste proclame donc un appel à la conversion à cause d'un jugement qui ne saurait tarder. Ses paroles sont abruptes, personne n'échappera au jugement qui vient. La hache est prête à attaquer la racine des arbres. Alors cela ne concerne pas seulement les pharisiens ou les sadducéens comme dans l'évangile de Matthieu, mais à toutes les foules citées dans l'évangile de Luc. Et son appel à la conversion est tout de même cinglant. engeance de vipère, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient ? Dans cette annonce du jugement qui vient, la colère désigne la réaction du Dieu saint face au péché, comme cela pouvait être exprimé dans les livres prophétiques, comme celui d'Ésaïe par exemple. Mais Jean le Baptiste annonce ici la venue imminente de Dieu comme juge à la fin des temps qui rendra une sentence. Mais aussi, il est le précurseur de Jésus qui se présentera comme un serviteur doux et humble. Celui qui ne jugera pas, mais qui à l'inverse sauvera de la colère présupposée. Mais l'appel de Jean-Baptiste est aussi vertueux. À la question posée par les foules, que devons-nous faire ? Il répond : partager ses biens avec les pauvres et lutter contre la corruption des fonctionnaires. C'est cela, produire des fruits qui témoignent de la conversion, de cette fameuse métanoïa exigée par Jean le Baptiste. Et nous avons ici la première occurrence du terme grec « métanoïa » qui reviendra 14 fois dans l'évangile de Luc et qui signifie un changement de mentalité, un changement d'état d'esprit. Et ce terme grec est la traduction d'un autre terme hébreu, celui-là, « teshuva », qui veut dire « faire demi-tour » ou « changer de direction »,« revenir à Dieu ». La réponse de Jean-Baptiste est simple et élémentaire. Il propose une conduite de fraternité et de justice, sans même exiger des collecteurs d'impôts, des militaires, qu'ils renoncent à leur métier. Les foules reçoivent un enseignement concis et précis sur la pratique nouvelle qui va authentifier leur conversion. Et pour tous, c'est une exigence de solidarité. Par le partage des biens élémentaires nécessaires à la vie, le vêtement et la nourriture. Et ici, l'évangéliste Luc fait apparaître une dimension sociale. La pauvreté matérielle est une réalité tangible. Et le fonctionnement d'une société nouvelle ne sera viable qu'avec le rétablissement d'une économie solidaire. Les collecteurs d'impôts, quant à eux, reçoivent une consigne spécifique de stricte honnêteté. N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. Et on retrouvera d'ailleurs ces propos dans la bouche de Zachée, plus loin dans le même évangile, quand Jésus passera à Jéricho et qu'il le débusquera de son figuier. Les militaires sont exhortés dans un paradoxe surprenant à la non-violence, et même à un refus de tout abus de pouvoir à leur profit. Alors le défi que nous lance l'évangile de ce matin, c'est, me semble-t-il, de nous rappeler intérieurement que tous, nous sommes créés à l'image de Dieu, comme nous le raconte le livre de la Genèse, et qu'à ce titre, nous devrions pouvoir nous considérer comme un cadeau les uns pour les autres. Tous créés à l'image de Dieu, autrement dit, tous porteurs de son amour et de son espérance, avec sa spécificité et sa diversité. Plus tard, lorsque Jésus le Christ dira « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de toute ta pensée, et aussi ton prochain comme toi-même », il développera cette loi en l'élargissant à lui-même, en précisant « Aimez-vous les uns les autres » comme je vous ai aimé. C'est-à-dire, aimez-vous les uns les autres dans une pleine communion au point de penser que vous ne formez plus qu'un. Exactement comme Jésus a aimé les êtres humains dans une union telle qu'il ne s'est pas dérobé à donner sa vie pour garder cette communion à l'humanité. Alors il nous appelle simplement à la réciprocité de cet amour en le manifestant les uns aux autres. Et le discours de Jean-Baptiste et surtout son appel à cette conversion radicale sont déjà les prémices du royaume d'amour que le Christ veut établir. Le texte d'aujourd'hui ne dit rien d'autre que ceci, au fond. Les besoins de notre prochain sont aussi les nôtres. Alors prendre conscience que le pain qu'on met de côté pourrait être partagé avec celui qui a faim, ou le manteau que l'on garde dans les armoires pourrait être donné à celui qui a froid, ou que l'argent qui dort sur des comptes d'épargne pourrait être distribué équitablement. C'est un peu le fil conducteur de notre réflexion. Et saint Augustin, qui était la référence du réformateur Martin Luther, disait « Le superflu des riches appartient aux pauvres. L'un peut prêter ses jambes au boiteux, l'autre peut prêter ses yeux à l'aveugle pour le guider, et un autre encore peut aller visiter les malades. » Théodore Monod disait à propos de l'Évangile « Dépassé, mais il n'a même pas été essayé. » Alors on a la tentation de croire que vivre l'Évangile, c'est vivre dans l'utopie. Pourtant, ce sera la référence de tout le mouvement du christianisme social, prêché par le père de Théodore Monod, Wilfred Monod, qui, en commentant le Notre Père, disait « Dire notre Père, c'est aussi dire notre pain. Si je demande du pain pour moi, j'en demande aussi pour les autres, et si l'autre n'en a pas, alors je donne un peu de ce que j'ai, car joindre les mains dans la prière, c'est rejoindre les autres à chaque instant. Ma prière personnelle ne peut se dissocier de la demande universelle. Elle me lie aux autres et me rend responsable et solidaire des autres. » C'est certainement ce que les premiers chrétiens avaient compris de la venue du Christ. C'est ce que nous pouvons nous réapproprier aujourd'hui au cœur de notre monde de consommation poussée jusqu'à l'extrême, augmentant le fossé entre les classes sociales, germe peut-être possible d'une révolution. Alors tous les chrétiens qui entendent cette parole sont invités à prendre l'Évangile au sérieux. Et de toute façon, à chaque génération, il y a plein de personnes qui ont pris l'Évangile au sérieux. Tous sont sortis victorieux de leur engagement. Rappelons-nous par exemple l'appel de l'abbé Pierre à l'hiver 54 qui a donné naissance à la communauté d'Emmaüs. Rappelons-nous aussi tous les organismes protestants ou non, croyants ou non, populaires, ou non, de solidarité qui existent et qui ont besoin de notre aide. Évidemment, l'armée du salut qui fait un travail remarquable sur tous les terrains. Rappelons-nous aussi ce témoignage rapporté par les pasteurs de l'oratoire qui m'ont précédé. Chaque fois qu'on célébrait la scène, ici du temps du pasteur Wilfred Monod, en même temps, il faisait porter un repas aux pauvres du quartier des Halles. Bon, j'imagine que ça ne devait pas se décider à la dernière minute. Si quelqu'un a deux tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. La parole de Jean-Baptiste retentit à nos oreilles ce matin, mais elle doit aussi s'imprégner dans notre cœur comme une réalité à vivre et non simplement comme une vue de l'esprit. Puisque c'est à la conversion que les foules sont appelées, autrement dit à un changement de mentalité, de point de vue, à un changement d'esprit, alors prenons le temps d'examiner notre réaction intérieure lorsque nous entendons ce texte. Nous qui avons tout de même la chance de bénéficier d'une certaine qualité de vie, sommes-nous tentés de dire « Ouh, mais ce que je peux faire dans ce domaine, mais c'est peine perdue, mais rien ne change, tout empire, je ne fais rien ». C'est à une conversion du cœur à laquelle nous sommes invités, appelés même. Parce que nous avons tellement de richesses à mettre en commun, et pas seulement des richesses matérielles. Nous avons certainement à apprendre, ou plutôt à réapprendre, à vivre dans le lien fraternel malmené ces derniers temps par le confinement et autres distanciations sociales ou autres ports du masque, ou la suspicion de la contamination. Nous avons à retravailler notre imagination pour affiner notre accueil à l'Église, à l'entraide. Et cela ne peut reposer que sur les épaules que ceux qui veulent bien dire oui. et pas simplement sur les épaules des mêmes. La conversion du cœur nous oblige à examiner nos pensées de l'intérieur. Le cœur, dans la compréhension biblique, c'est quelque chose d'important, de fondamental. Toute conversion passe par cette purification du cœur, autrement dit, par ce nettoyage intérieur de l'être humain. C'est donc dans le cœur que s'élaborent nos pensées. C'est aussi là où se prennent les décisions. C'est là encore où se logent les sentiments. Nous sommes bien placés pour savoir que le cœur de l'être humain est compliqué. Et cette complexité traverse toute la Bible. D'ailleurs, elle sera identifiée par l'apôtre Paul en faisant part de son tiraillement personnel. « Je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne veux pas. » L'essentiel, à mon sens, c'est d'en prendre conscience, d'identifier ce tiraillement pour nous-mêmes. Au fond, c'est se regarder soi-même en vérité devant le Dieu de Jésus-Christ en qui, d'une manière ou d'une autre, nous avons placé notre confiance. Chacun peut savoir où il en est dans ses propres tiraillements. Et ce petit passage de Luc est là aujourd'hui, en ce dimanche de l'entraide, pour évangéliser nos pensées, nos attitudes, nos comportements contradictoires, nos doubles, voire nos triples discours. Chacun sait ce qu'il a à modifier, à changer, à convertir. On se demande souvent, et même on me demande souvent, mais c'est quoi vivre l'Évangile ? Eh bien, ça commence comme ça, avec cette prise de conscience, qu'il y a des toutes petites choses à changer pour regarder le monde avec le cœur. Mais c'est vraiment une exigence. La première, c'est celle de passer sur notre paresse, notre lassitude, nos découragements. La deuxième exigence, c'est de passer aussi sur certaines rancœurs, certaines déceptions, sur les non-dits qui sont autant de médisances ou sur les paroles blessantes qui appellent une justification. Enfin, cela nécessite de passer encore sur le manque de reconnaissance que l'on recherche et finalement convertir notre regard juste sur celles et ceux qui nous entourent. Mais si le cœur est souvent le lieu de nos misères, il est aussi ce lieu où Dieu, par sa parole, peut nous rejoindre. Et sa parole peut être bienfaisante et réparatrice. Elle soigne ce qui en nous est blessé. Elle relève ce qui en nous est tombé. Elle restaure aussi ce qui en nous est humilié. Elle unifie ce qui en nous est divisé. Mais rien de cela ne se fera sans nous, sans notre désir d'une part, ni sans notre consentement d'autre part, parce que nous sommes partie prenante de cette conversion de notre cœur. Amen. cantique numéro 390 que nous prendrons dans le recueil Louanges et prières. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 et je vous invite à vous lever. Prenez place et je cède la parole à Béatrice pour quelques mots d'annonce.
Voilà, j'étais pressée tout à l'heure de remercier ma consœur pour cette prédication pleine d'amour et une prophétie pour nous aujourd'hui. Merci Agnès et merci Seigneur de nous avoir donné Agnès dans cette église. Je vous invite le 5 avril, le mardi 5 avril, à venir à la soirée Théophile que nous organisons à 20h et à la maison presbytérale pour la soirée sur le thème « Choisir et élire » qui va être évidemment d'actualité puisque nous approchons du premier tour des élections qui aura lieu donc le dimanche 10 avril. Et ici, le dimanche 10 avril, après ou avant avoir voté, vous pouvez venir partager ce moment de culte ici avec l'éducation biblique ce dimanche-là et puis un culte avec deux baptêmes, un petit garçon et une petite fille seront baptisés ce jour-là. Donc nous sommes très heureux de partager ces moments-là. Et ce sera le dimanche des rameaux, un dimanche aussi où nous pourrons aborder cette question de celui qu'on attend comme roi, celui qui vient comme être providentiel. Alors voilà. Mardi 12 avril, soirée spéciale sur l'apôtre Paul, ici, avec une table ronde avec Pierre-Olivier Léchaud, que vous connaissez déjà, qui est historien, Laurent Gallois, qui est le président des archives de philosophie, qui viendra ici nous faire l'honneur de partager cette table ronde, et Jean-Pierre Clairaut, philosophe, qui nous parleront de cette figure de l'apôtre Paul, une figure qui a été relue de diverses façons au fil de l'histoire des idées. Et ce sera donc une façon de pouvoir confronter ces différents portraits de Paul avec différents philosophes et différents théologiens. À 19h, le jeudi qui suit, vous aurez la possibilité et la chance d'aller au foyer de l'âme pour vivre le jeudi saint. Donc nous aurons un culte avec Samson, avec Dominique Hernandez, et c'est Agnès Adeline Schaeffer qui fera la méditation de ce jeudi saint au foyer de l'âme à 19h. Alors sur la newsletter, il y a eu une coquille, on a mis 16h, mais en fait c'est bien 19h, on a bien corrigé. Vendredi saint, ici à l'Oratoire du Louvre, aussi à 19h, et nous aurons donc la lecture de l'évangile de Luc avec beaucoup de musique, et lecture et musique avec Sarah Kim et John Kim, qui seront tous les deux avec l'orgue et le violoncelle ici pour nous accompagner dans notre méditation de la lecture de la Passion selon Luc. Et puis bien sûr, dimanche de Pâques, nous serons ici avec Agnès Adeline Schaeffer et puis aussi Sarah Kim et le chœur de l'Oratoire du Louvre qui seront là pour nous accompagner dans ce moment de fête et de résurrection. Voilà, je vous invite maintenant à un moment d'offrande. Donnez peut-être pas votre tunique, peut-être pas de votre nécessaire, mais en tout cas, donnez tout ce que vous avez à donner pour que cet évangile que nous a annoncé ce matin Agnès continue à essaimer partout dans notre monde. Merci.
Unissons-nous dans la prière les uns pour les autres. Éternel, apprends-nous à prier les yeux ouverts sur notre monde, mais également les mains ouvertes pour t'apporter, te remettre tout ce qui le brise et le détruit. Donne-nous suffisamment de discernement pour trouver le courage et aussi les moyens de résister à tout ce qui peut déshumaniser notre monde et notre prochain. Donne-nous suffisamment de courage et de persévérance pour approcher, accompagner celles et ceux qui, blessés par la vie, ont de la peine à avancer. Rappelle-nous simplement que tout ce que nous faisons, nous le faisons en réponse à ton amour premier que tu as pour chacun, chacune d'entre nous. Et que chacun, chacune est au bénéfice de cette grâce, sans condition. Permets que nous soyons suffisamment inventifs pour être des hommes et des femmes d'initiative, créateurs de projets qui permettront à chacun et à chacune de découvrir que tu fais vraiment des choses nouvelles, que l'on peut reconnaître. Nous te confions toutes les situations personnelles, ecclésiales, familiales, sociétales, politiques. Te confions les projets d'aujourd'hui, les projets de demain, et toute personne qui demande le secours à la fois de notre prière et notre soutien. Nous te les nommons dans le profond de nos cœurs. Et dans la plus grande confiance, nous nous en remettons à toi. Toi qui, par la prière du Christ, nous as appris à te dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amis, frères et sœurs, recevez maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Vivez en paix entre vous. Donnez du courage à ceux qui en ont besoin. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'être humain peut comprendre, garde vos cœurs et vos esprits, vos pensées, vos jours et vos nuits. En Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un très beau dimanche.